Ça se comprend ?
Ouais, ça se comprend. Ouais, ça se comprend.
C'est vraiment très intéressant.
C'est un spécialiste.
Ah ouais, ça m'étonne rien.
N'importe quoi. Oui, mais non.
Tout de même invraisemblable.
Ça, c'est bon.
Si je peux me permettre, je suis un peu délai de tout le monde.
Pardon ?
C'est bon, ça.
C'est agréable.
Ça se comprend.
T'as compris ?
Ça se comprend.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Fréquence Mistral. On se déjà lundi 13 octobre 2025 pour un plateau en direct depuis nos studios de Manosque où j'ai le plaisir de recevoir autour de la question de la santé mentale. Tout d'abord, Christophe Leblanc qui est responsable du centre médico-psychologique à Manosque.
Bonjour.
Bonjour. Guilly Morte, vous êtes bénévole à l'UNAFAM. Le GEM, groupe d'entraînement mutuel, le Chakitous, une des trois GEM de Manosque représentée par Michael Chalaï. Virginie Houlès, qui représente le conseil local de santé mentale de Manosque. Et enfin, Rémi Charpie, de la mutualité française, antenne 0405, c'est ça ?
C'est bien ça, bonjour.
Cette santé mentale, c'est un thème qui est mise à l'honneur à la fois cette semaine, mais surtout cette année par le gouvernement. De quoi s'agit-il, Christophe ? Donc Christophe, vous êtes responsable du centre médico-psychologique, c'est très important.
Oui. Donc moi, je suis cadre de santé, donc rattaché à l'hôpital de Digne-les-Bains, donc en psychiatrie. Et je suis responsable, effectivement, du CMP de Manosque, donc qui reçoit les adultes en détresse psychologique, donc à partir de 18 ans, et en fait, je gère une équipe composée d'infirmiers, de psychologues, de psychiatres, et qui font des entretiens, des groupes, du soutien, de la relax, de la sophro. Donc c'est un peu varié. On se situe avenue Pompidou, et on est ouvert de 9h à 17h pour l'accueil du public.
Alors, nous sommes aujourd'hui là autour de ce thème de la santé mentale. Que recouvre la santé mentale ? Qu'entend-on par là ?
Alors, la santé mentale, ça regroupe beaucoup de choses. Alors, si on reprend effectivement la définition de l'OMS qui est relativement récente hein, sur l'échelle médicale, donc de 2001, donc l'OMS dit que la santé mentale, c'est un état de bien-être mental qui nous permet de faire face aux sources du stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre, de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Donc c'est surtout pas l'absence de maladie, hein, c'est bien plus que ça. Et en fait, cette santé mentale, elle recouvre trois dimensions. Donc la santé mentale positive qui englobe l'épanouissement personnel, le bien-être, la capacité d'action. La détresse psychologique réactionnelle, donc qui peut survenir quand on subit un stress, un événement traumatique. Ouais. Et les troubles psychiatriques, donc, qui représentent que 14% en fait de cette santé mentale. En fait.
Alors, c'est une santé mentale qui interviendrait plus concernant des accidents qui arriveraient de la vie pour chacun ou...
Pas que, ça peut être du stress, bah, par exemple, on en parlera tout à l'heure, mais du stress au travail. Bon, qui ne rentre pas dans la définition de l'accident, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de global, la santé mentale.
On viendra sur ce thème de la santé mentale au travail. Alors, je vais me tourner vers Virginie Houlès.
Oui, bonjour.
Virginie, alors donc, vous êtes, on va présenter votre institution. Il s'agit du CLSM, c'est ça ?
Oui, alors je suis directrice du CSAS, le Centre communal d'action sociale de la ville de Manosque et du service petite enfance et parentalité. Et ce CSAS donc, offre de multiples services aux habitants et habitantes manosquins, des services sociaux, des services d'aide à domicile. Pour les seniors également, énormément d'ateliers de sport et d'événements, un service d'inclusion numérique autour du grenier numérique et enfin, donc je rebondis Olivier, sur le CLSM qui a été créé donc en novembre 2024 avec une gouvernance partagée, on en parlera aussi plus tard, ce qui fait toute la force de cet outil autour de la santé mentale. Voilà sur les aspects du CCAS et de la ville de Manosque. Ce que je voulais dire sur la santé mentale et les pouvoirs publics, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de la santé mentale que depuis la pandémie du Covid-19, que ce soit dans les sphères médiatiques, politiques ou encore sur les réseaux sociaux. Donc la crise sanitaire que nous traversons de manière collective depuis maintenant plus de 3 ans constitue une véritable opportunité pour rappeler la nécessité de coordonner toutes ces actions en santé mentale sur les territoires dans une logique globale. Donc, c'est pour ça que cet outil du CLSM est né. Donc, je voulais aussi évoquer la santé mentale. C'est évidemment tout ce qui est psychiatrique, ça appartient à la médecine, mais pas seulement. Pourquoi les pouvoirs publics peuvent agir et améliorer la santé mentale? Parce qu'il s'agit d'un domaine complètement transversal et intergénérationnel. Sur le domaine transversal, j'ai envie de vous parler de l'action sociale, donc venir en aide aux personnes vulnérables et lutter contre l'exclusion. Par rapport au logement aussi, l'insalubrité, c'est important, ça joue, c'est l'environnement des personnes, donc ça joue sur la santé mentale. Sur la sécurité également, la sécurité et la tranquillité publique, il existe un dispositif municipal, le CLSPD, c'est un acronyme aussi, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est une instance de dialogue entre les acteurs de la sécurité, présidée par le maire, ou qui peuvent donner lieu à une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, suite à un arrêté pris par le maire. Donc ça peut aider des cas isolés et complexes. Je poursuis dans les thématiques transversales avec l'éducation et la petite enfance, où on peut être acteur, nous, les pouvoirs publics, sur tout ce qui est prévention, promouvoir la santé mentale au sein des crèches, au sein des écoles. Sur l'urbanisme également, donc je continue dans une autre thématique, la manière dont le territoire est agencé, est aménagé, peut avoir un impact positif sur la santé mentale et le bien-être de la population. Et enfin, j'aimerais évoquer aussi le domaine de la culture et du sport. Le sport peut contribuer à la prévention comme au rétablissement de troubles de santé mentale.
Alors, nous reviendrons vers toutes ces solutions, tout ce qui est possible. Oui. On va continuer ce tour de table avec cette fois-ci Rémi Charpie. Vous êtes président de la Mutualité française pour les départements 04 et 05, c'est
oui.
ça ?
C'est bien ça.
Alors, qu'est-ce que la Mutualité française, même si on pense le savoir ?
La Mutualité française, rapidement, elle regroupe l'ensemble des mutuelles qui sont adhérentes, puisque c'est une fédération. Et donc, que vous soyez aux Mutuelles de France, Ideco, Imperia, Interial ou bien d'autres, ou la MGEN, etc. Donc, je représente toutes ces mutuelles-là. Et ces mutuelles, dans d'autres départements, elles couvrent à peu près 52% de la population. Donc, c'est quand même une remontation assez large, le reste étant des assurances privées. Donc, différence entre mutuelle et assurance privée, c'est qu'un a des actionnaires et l'autre, il n'y en a pas. Voilà, c'est toutes les différences. Nous, nous n'avons pas d'actionnaires. Voilà. Et donc, la santé mentale, c'est une préoccupation majeure pour les mutualistes, hein, parce que de toute façon, on contribue en complément de la sécurité sociale aux effets des effets de la santé et en matière de maladie mentale aussi. Là. Et donc, on y travaille déjà depuis quelques années. Et en 2021, il y avait eu un premier document qui avait été fait entre l'Association des maires de France et la Mutualité française, qui s'appelle Place de la Santé, où il y avait eu une première réflexion après le Covid.
Toujours autour de la santé mentale.
Oui, la santé, spécifiquement sur la santé mentale. C'est accessible partout, hein, vous pouvez aller les voir. Et il y avait donc déjà eu un certain nombre de constats de faits et de recommandations, dont le CLSM fait partie, hein, entre autres. Et puis, aujourd'hui, on vient de sortir à nouveau, en lien avec en collaboration avec l'Institut Montaigne et l'Institut Terram, une étude sur la santé mentale qui concerne particulièrement les jeunes. Et donc, c'est extrêmement édifiant. Et pour reprendre ce que disait Christophe tout à l'heure, là, sur la définition de la santé mentale, moi j'y rajouterais, c'est juste qu'il ne l'a pas dit, parce qu'il est resté centré sur son domaine, mais c'est à la fois, c'est social, c'est physique, social et mental. Et il y a les trois dimensions sont interdépendantes. Autrement, on en reste que sur des aspects de comportement, et on ne prend pas en compte l'environnement à côté. Et aujourd'hui, ce que les jeunes mettent en particulier, puisque ce que disent nos premiers les chiffres, là, c'est que 25% de la des jeunes sont directement affectés en matière de santé mentale. 25%, c'est énorme. Et selon les endroits où on habite, selon les conditions de vie, selon la richesse, les événements, etc., on va être plus ou moins touché. Et donc, ce sont des éléments qu'il faut absolument prendre en compte. Et les jeunes aussi, c'est l'environnement. Pour eux, l'environnement, c'est anxiogène. C'est l'année dernière, ou il y a 2 ans à Digne, on avait fait les assises de la santé mentale. On a organisé aussi, en lien avec le CODES, une réflexion sur l'environnement et la santé mentale, où donc un certain nombre de scientifiques étaient venus. Et donc, on avait beaucoup mis en avant l'éco-anxiété. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. L'actualité internationale pèse aussi beaucoup sur les jeunes. Là, c'est extrêmement anxiogène par rapport à l'avenir et à leurs projections. Et donc, c'est bien pour ça que travailler ensemble, se coordonner pour bien expliquer. Et dernier élément, pour bien expliquer, pour bien travailler ensemble, il faut développer la prévention. Et donc, la Mutualité française, déjà depuis un certain temps, d'abord, ça fait partie de ses missions d'ADN, on va dire, la prévention. Mais là, la santé mentale devenant quelque chose de primaire et de majeur dans notre pays et dans nos territoires aussi, bon, on doit absolument développer la prévention. Juste un dernier élément là-dessus. Après le Covid, les mutualistes, donc la Mutualité française et l'ensemble des mutuelles avaient bien compris que c'était quelque chose d'extrêmement majeur d'avoir accès aux soins en matière de santé. Et donc, les mutuelles avaient décidé de mettre en place un accès à un psychologue 4 fois par an. Mais c'était une initiative de la mutualité qui a été reprise depuis l'année dernière par la Sécu.
Vous l'avez dit, hein, le Covid a été un bouleversement. Alors peut-être que cela vous concerne aussi, Michael. Michael Chalaï, vous êtes président de la GEM, le groupe d'entraide mutuelle, le Chat qui tousse. Alors vous me disiez hors antenne qu'il y a 3 GEM à Manosque, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. Donc il y a le nôtre, le groupe d'entraide mutuelle, le Chat qui tousse. Donc,
qui est spécialisé dans quel domaine?
Alors nous, on est spécialisé dans les souffrances psychiques et les problématiques liées au grand isolement. Nous, on est un lieu d'accueil, d'écoute, d'échange, d'entraide. Après, il y a 2 autres GEM que je vais citer. C'est J'aime ma vie, qui est spécialisé dans les traumas. Et après, il y a J'aime ma différence, qui est spécialisé dans les troubles autistiques.
Très bien. Donc, ouais. ce sont des associations vers lesquelles les familles ou les gens qui se sentent isolés par rapport aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer, vers lesquelles ils peuvent se tourner.
Oui, oui.
Pourquoi vous appelle-t-on en général?
De toute façon, nous, on travaille beaucoup, beaucoup avec le CMP, avec Christophe. Donc, on a un public essentiellement adulte. On n'a pas de mineurs chez nous. Et donc, par rapport aux souffrances psychiques, comme je vous dis, au grand isolement, toute personne ayant ces problématiques peut venir nous rencontrer, voir si ça peut coller, et nous, on est là pour aider.
Donc, on vous sollicite. Est-ce que vous faites aussi de l'action, des actions de prévention ou de... Pas du tout?
Pas spécialement, mais bon, le GEM existe depuis 2008, donc ça fait bientôt 17 ans. Ça fera 17 ans là, le mois prochain. Moi, je suis un jeune président. Hein, ça fait 3 ans que je suis président du GEM. Et donc, le GEM de Manosque, le Chat qui tousse, est quand même bien connu sur le bassin manosquin. Alors, en plus de travailler avec le CMP, on travaille avec tous les services sociaux de Manosque et des alentours.
Vous êtes une sorte de, si je puis dire ça ainsi, vous êtes comme une passerelle entre les familles et les personnes ces assos et
une structures. Une passerelle, un tampon. Donc nous, les objectifs principaux, c'est créer ou recréer du lien social. C'est lutter contre la solitude aussi. Reprendre sa vie en main. Faire des rencontres et éviter en tant que possible les hospitalisations.
Pour ce qui concerne le 04, qui est quand même un très beau département, assez peu peuplé, on souffre beaucoup d'isolement, je pense, hein, dans les villages, les gens...
Oui.
Notamment, vous parliez des jeunes, Rémi, mais Michael, vous êtes plus tourné vers les adultes, les personnes âgées, normalement, notamment.
Pas spécialement, non.
Non, tout le monde.
Tout âge. De toute façon, en général, quand on a un trouble psychique, souvent l'isolement, ça va avec. Souvent. Je vais parler quand même de nos soutiens et de nos parrains.
Oui, bien sûr.
Donc, nous, on est subventionnés par l'ARS. On a un soutien financier aussi de la mairie, du CSAS, et aussi du Crédit Agricole de Manosque.
D'accord.
Et ces trois soutiens, ils sont depuis la création du GEM. Et donc, on a aussi 2 parrains qui nous suivent depuis le début. C'est l'Association des Amis de la Tour, qui dépend de l'hôpital de Digne, qui est en lien aussi avec le CMP, et aussi l'UNAFAM, qui est représentée par Guy Limorte, ici.
que l'on va entendre dans peu de temps, je pense. Mais avant, je vais passer la parole à Virginie qui voulait ajouter quelque chose.
Oui, Olivier, je vous remercie. Je voulais rebondir sur votre terme de passerelle, justement, que j'apprécie beaucoup. Parce que pour la mairie, le conseil local en santé mentale est une passerelle entre les institutions de soins, du social et du médico-social, entre les associations du territoire, ce qui permet d'en faire vraiment un maillage complet, et entre toutes les directions des équipes municipales, à savoir les différents services, les logements, la petite enfance, l'handicap, l'environnement, la démocratie locale, l'éducation, etc. Voilà, je vais juste apporter cette précision.
Oh, merci de cette précision. Je me tourne vers la dernière personne que nous n'avons pas entendue encore. Il s'agit de vous, Guy Limorte. Vous êtes bénévole à l'UNAFAM. Alors évidemment, qu'est-ce que l'UNAFAM?
Alors l'UNAFAM a été créée en 1963. C'est une association reconnue d'utilité publique. Il y a plus de 16 000 membres adhérents et qui intervient. Alors, c'est la particularité, elle ne s'adresse pas spécialement et directement aux malades, elle s'adresse aux familles, c'est-à-dire aux aidants, familles et amis, et qui ont à voir avec un proche ou un parent, ou un fils, etc., qui est dans la difficulté.
Toutes sortes de difficultés.
Comment ?
Toutes sortes de difficultés.
Difficultés psychiques. Cette association n'a pas a des délégations départementales dans tous les départements. Et dans le 04, il y a une antenne dont le siège est à Fort-Calquier, mais qui se développe, se déplace un peu plus sur Manos maintenant, puisque on va aller dans la maison des associations aussi. On a 13 bénévoles. 13 bénévoles actuellement, hein, avec des bénévoles qui sont sur le point de partir aussi parce qu'il y a beaucoup de retraités ou de gens malades, etc. Donc et là, j'en profite pour faire un appel à bénévolat. Hein, on est à la recherche vraiment de gens qui peuvent nous aider parce que le problème est énorme. Et les familles sont complètement dévastées souvent par le problème qu'ont leurs proches, leurs enfants. Donc, et nos actions, on a une centaine d'adhérents, hein, et on touche à peu près 300 à 400 familles.
Les adhérents, ce sont les gens qui font appel à vous?
Les adhérents, ce sont les gens qui prennent leur carte de l'UNAFAM.
Ah oui, non, c'est pour...
Sinon, vous font appel à nous, n'importe qui.
Oui, bien sûr.
C'est ouvert à tout le monde. Hein. Donc, notre mission centrale, je le précise, c'est l'accueil des familles en difficulté. On a, nous, bénévoles, des formations permanentes sur le sujet et on reçoit des gens pendant une heure et demie, qui nous exposent leurs problèmes de façon totalement confidentielle et qui est au terme de l'entretien, généralement, on propose des éléments de solution ou d'aide. Hein. On ne va pas régler le problème de la maladie de leurs enfants, mais on propose des aides et notamment... le recours à des psychologues, on prend en charge, à une assistante sociale et surtout à des groupes de parole, puisqu'on a 4 groupes de parole qui relèvent de l'UNAFAM et pour lesquels il y a des psychologues qui sont d'ailleurs financés par l'ARS. Je précise que les revenus de l'UNAFAM, c'est national, c'est essentiellement l'ARS, hein, et les cotisations... Donc, notre mission, on reçoit des gens, on les adresse ou on les incite à aller faire telle ou telle chose, voir telle ou telle personne. Et ensuite, on propose également de participer. Tous les ans, on a 2 séances de 2 journées d'information sur les troubles psychiques. La prochaine aura lieu, je crois, le 7 et le 8 novembre, sur comment accompagner un proche d'un malade qui souffre de la bipolarité. Et on en a fait sur la schizophrénie, sur les troubles anxieux, etc. J'ouvre une parenthèse pour dire, on en parlait tout à l'heure, c'est 20% quand même de la population française qui souffre de troubles psychiques à un moment ou à un autre de leur vie. C'est énorme. 20%. On a beaucoup de demandes, on essaie de répondre. On fait aussi des actions de déstigmatisation à travers des spectacles, à travers des conférences, etc. On en a fait avec la mutualité, d'ailleurs, un théâtre. On essaie d'en faire. Il y aura, avec le CCAS aussi, une opération avec des clowns qui font un spectacle et qui s'est prévu, je crois, ce samedi, hein, c'est ça,
ça
sur le marché.
Ce sera sur le marché.
Oui, ouais, de 9h à 13h sur le marché.
Ouais, c'est important
habituel à Manosque.
Qu'il y ait du monde, parce que ça permet de parler de la maladie mentale sans inquiéter les gens.
Voilà. Donc, c'est plus un sujet tabou, alors, apparemment.
Oui, voilà.
Est-ce que ça l'a été longtemps, plus ou moins? Je vois Rémi Charpy qui fait l'amour.
Ça reste encore un sujet aussi. Tabou.
Ça reste un tabou, oui.
Michael, vous voulez dire? Donc, nous, pour cette journée du 18 octobre, donc, il y aura la déambulation sur le marché de Manosque le matin. Et le GEM de Manosque, voilà. Le chat qui tousse, ouvrira ses portes à tout le monde, de midi à 17h, pour des informations, pour venir échanger, prendre des renseignements, boire un café. Tout le monde est le bienvenu.
Avec plaisir.
Ouais. Je rajoutais juste que le jeudi 16, dans le cadre de cette semaine d'information sur la santé mentale, à Osco Manosco, la grande salle municipale, il y a lieu le salon de la prévention de la santé mentale, donc avec plein d'ateliers toute la journée, de la ludopédagogie. Enfin voilà, il y en a pour tout le monde. Et voilà, venez nombreux parce que c'est très intéressant et ça permet de déstigmatiser et de donner plein d'informations autour de la santé mentale.
Alors, je vais me tourner vers Rémi, qui souhaite la parole. Rémi Charpy.
Oui, je vais confirmer ce qui est dit. Là, je crois que la déstigmatisation, c'est quelque chose de fondamental en matière de santé mentale. J'ai participé au titre du comité territorial de santé, qui est l'unité, c'est le lieu de représentation et de démocratie sanitaire dans le département, où l'ensemble des corps médicaux, l'UNAFAM siège, les représentants des usagers, la mutualité française y a aussi, là, on avait participé à ce travail-là, justement, qui avait mis en avant qu'il fallait déstigmatiser. Ça, c'est le premier. Savoir aussi que dans la santé mentale, il y a ce qui nous est intrinsèque, parce qu'effectivement, à un moment donné, on est tous touchés, ou tous concernés. Et il n'y a pas de... C'est pas une maladie honteuse. Pendant longtemps, on a caché ce qui pouvait être considéré comme de la mentale, une différence qui était difficilement supportable ou pour l'entourage ou pour les personnes, pour les familles, parce que c'était pas bien compris. C'est pas comme un bras cassé, hein. Un bras cassé, on met un plâtre, on refait. Santé mentale, c'est autre chose. Et puis, il y a tout ce qui est c'est-à-dire tout ce qui participe de l'environnement. En entreprise, on parle beaucoup des facteurs de risque psychosociaux. Bon, c'est 80% les résultats de l'organisation de travail. Et ça peut rendre malade. Alors, il y a des choses, en travaillant la prévention, on peut aussi le limiter. Et donc, la prévention, c'est pouvoir détecter, c'est pouvoir orienter, c'est pouvoir aider. Et ce qu'a fait, pas seulement les premiers, c'est l'UNAFAM qui l'a fait, nous en sommes inspirés, la mutualité française, pour développer, c'est la mise en place des premiers secours en santé mentale. C'est une formation de 2 jours qui permet surtout pour ceux qui suivent ça de complètement, non pas comprendre ce qui se passe, mais intervenir en cas d'eux et puis ne pas être soit démuni, soit être dans le jugement en disant « qu'est-ce que là, c'est quelqu'un qui peut être, on ne sait pas les comportements qu'il peut y avoir. Quand on méconnaît, on est toujours un petit peu dans les spectatives, tandis que là, en ayant fait... Moi, j'ai moi-même fait ce stage-là, j'incite tout le monde, j'appelle tout le monde parce que c'est ouvert à tout le monde. L'ARS en a beaucoup participé, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place. Et puis je reviens sur le CLSM qui est mis en place à Manosque. Ça avait été une volonté du Conseil territorial de la santé il y a un an et demi maintenant de dire il faut que les agglomérations mettent en place ce comité local de santé mentale qui permet de se coordonner, de faire appel les uns aux autres, d'activer le réseau. Il y en a un qui marche bien depuis maintenant, je ne sais pas combien, une dizaine d'années à peu près, c'est celui de Digne. Celui de Digne, ça devient c'est une référence, je crois. Et donc, et ça marche.
Ce sont des outils communaux.
Donc, que Manosque le mette en place maintenant, ça veut dire que la recommandation qui avait été faite aux élus par le CTS, le Comité Territorial de Santé, c'est quelque chose qui a été pris en compte et on ne peut que s'en féliciter.
Virginie, vous vouliez.
Oui, juste rebondir sur donc cette création du Conseil local de santé mentale, qui est vraiment une volonté politique. Ce n'est pas une obligation à l'heure actuelle. Donc, c'est les maires avec les partenaires qui s'en emparent de cette question. Juste une petite précision. Donc, oui, ce qui fait la force de ce Conseil local en santé mentale, c'est sa gouvernance partagée. C'est aussi que c'est un outil de proximité. Je vous donne un exemple aussi. Donc, Florence Chéa est mon assistante sociale au sein du CCS, mais elle a aussi la casquette de coordonnatrice justement du CLSM à 50% de son temps de travail et je précise aussi accompagnée financièrement par l'ARS. Donc elle me disait, pas plus tôt que ce matin, elle a une bénéficiaire, mais avec sa casquette d'assistante sociale, bah, tiens, j'ai reçu une bénéficiaire qui me fait part de sa sœur qui aurait besoin justement à l'alerte de soins en santé mentale. Donc elle va faire remonter ce cas au sein des réunions de ce qu'on appelle le COPIL. Le COPIL est représenté par des partenaires dont le CCS. Donc, il y a l'ARS dans ce COPIL, l'UNAFAM, le Chakitous, l'hôpital, la police municipale, la police nationale, le CMP et la maison des adolescents. Voilà, donc là, c'est des réunions régulières qui se font avec tous ces professionnels, ces associations, justement pour discuter lorsqu'il n'y a pas d'issue au niveau individuel. Ben, on met tout sur la table et de manière collective, on essaie de trouver une solution.
Là, vous discutez de dossiers particuliers, là, c'est pas
absolument
une, mise en
place, une cellule de cas complexe. Oui, en plus de la mission. Ben, l'écotech et les COPIL, les comités techniques et les COPIL, c'est entre
en
les partenaires.
Des cas extrêmes.
Des cas complexes, situation des cas complexes. Ouais. Merci.
Christophe Leblanc, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, moi je voulais revenir sur le tabou. En fait, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a vraiment une différence entre santé mentale et psychiatrie. Mm-hmm. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le répéter. La santé mentale, ce n'est pas de la psychiatrie. Je vais prendre un exemple tout bête. Voilà, quelqu'un qui travaille, qui a une charge de travail importante, qui ne peut plus faire de sport parce que ben, il arrive, il est fatigué, qu'il ne peut plus aller au cinéma, enfin qu'il ne peut plus avoir de loisirs, sa santé mentale est dégradée. Mmh. Par contre, est-ce qu'il va avoir besoin de la psychiatrie? Pas forcément.
Voilà. Il aura besoin peut-être d'une aide.
Voilà, donc par exemple, le CMP, quand je disais qu'on fait des entretiens, on fait beaucoup d'entretiens d'aide et de soutien, on fait de la relax, on fait de la sophro, ça ne veut pas dire qu'on va donner des médicaments mm-hmm. ou faire une hospitalisation. Et dans les représentations, on associe souvent problème de santé mentale à psychiatrie. Voilà, et c'est très important de souligner que tout le monde peut passer la porte d'un CMP ou, j'en parlerai tout à l'heure, de la maison des adolescents, parce qu'on est là aussi pour apporter quelque chose d'autre que des médicaments.
Parce que la santé mentale, ça représente c'est la bonne santé mentale. On peut dire qu'on est en bonne santé mentale ou pas.
Exactement.
Alors, il y a une chose quand, tout de même qui m'étonne, c'est toutes ces associations, et c'est formidable que toutes ces structures se mettent en place, mais est-ce que, comment dire, les gens n'osent pas s'adresser au corps médical ou à d'autres structures lorsqu'ils sont en situation de cette difficulté? Parce que si on a un rhume, une grippe, on va chez le médecin. Là, on a l'impression qu'il faut aller chercher les gens, et d'autant plus quand ça ne concerne pas le monde du travail. Parce que dans le cadre du travail, on trouve assez facilement des gens qui ne vont pas bien, qui sont en burn-out, qui sont mis au placard. Mais là, pour les gens qui sont isolés chez eux, ils vont pas aller vers ces structures-là d'eux-mêmes.
Non, parce que encore une fois, il y a cette représentation de santé mentale égale folie.
Voilà. Oui, donc la stigmatisation dont vous parlez.
Voilà. Je le répète, hein, on est tous amenés à subir un trauma. Vous le disiez très bien tout à l'heure. Voilà, un trauma quelconque. Hein. Je veux dire une charge de travail énorme.
Une maladie.
Un accident. Voilà. Et c'est pas pour autant qu'on va hospitaliser ou donner des médicaments. Voilà.
Alors, Michael, je vois lever la main.
Je voulais préciser que sur la santé mentale, oui, c'est en lien aussi avec la santé physique. Hein. Et donc, la santé physique, c'est en lien avec une alimentation équilibrée, un sommeil de qualité, des activités physiques régulières, des passe-temps. Comme disait Christophe, le monsieur, il a fait sa journée de travail, il est fatigué, il n'a pas le temps d'aller au cinéma ou d'emmener sa femme au restaurant. Ça peut jouer sur la santé mentale.
Virginie.
Oui, je voulais revenir justement sur ce sujet tabou et ce qui n'est pas évident dans la santé mentale, c'est on ne va pas directement voir le CMP ou un TOUBI, mais par contre, avec ce CLSM, ce Conseil local en santé mentale, on permet à des citoyens de donner une alerte via une fiche d'alerte sur le site de la mairie, par exemple, de manière beaucoup plus confidentielle, venir au CCS, voir la coordonnatrice, pour signaler ce qu'on appelle un signalement. Donc après, on mène comme une petite enquête et on voit si un voisin a été signalé par un autre, le voyant peut-être souffrant à ses yeux. Voilà, donc ça, ça peut aussi aider et mettre un pas vers le mieux-être en traitant les cas individuels de cette manière-là.
On peut ajouter que pour les jeunes en particulier, il faudrait avoir des démarches pour comprendre ce qu'on appelle les signaux faibles. Si on comprenait les signaux faibles et si on avait des formations là-dessus, je pense qu'on pourrait éviter pas mal de problèmes, notamment dans les lycées, les collèges, etc.
Peut-être qu'avec les adolescents, c'est plus difficile
là,
à lire.
À ma connaissance, il y a peu d'interrogations, peu de formations sur cette appréhension des signaux faibles. Ça, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire aussi que quelque chose qui est dans la tête des gens, c'est que le malade mental est un personnage violent. Alors, aller lutter contre ça, quand les médias en font la une à chaque fois, dès qu'il y a un événement qui ne concerne pas forcément d'ailleurs la maladie mentale, mais ça ne fait rien. Donc, c'est un vrai sujet. Il faut éviter d'en rajouter sur ces questions-là.
Oui, le problème, c'est les amalgames, etc.
Christian a sûrement quelque chose à dire.
Oui,
c'est
en fait.
L'amalgame entre les troubles psychotiques et les troubles psychiatriques.
Ouais. Et à l'inverse, quelqu'un qui commet, par exemple, un acte répréhensible sur la voie publique, c'est qu'il relève de la psychiatrie. Oui. Voilà, or, pas forcément. Et ça, ben, c'est vraiment à travailler tous. Au quotidien.
Entre des termes juridiques et médicaux,
ouais,
c'est pas
voilà.
Le même chien,
ouais,
un pont.
Ouais. Vous et beaucoup de personnalités politiques font l'amalgame entre la violence et la psychiatrie.
Alors vous parliez des jeunes, on va revenir à la maison des associations. On va faire juste une petite pause musicale en cette demi-émission, puisqu'il est déjà midi 31, il est 11h31 sur Fréquence Mistral, évidemment, merci encore d'être avec nous. Nous allons écouter Anne Peebles avec 99 pounds, extrait de Straight from the Heart, un titre sorti en 71. Retour en plateau en ce lundi 13 octobre autour de la santé mentale. La santé mentale dans tous ses états, hein, c'est pas simplement au travail. Christophe, avant que cette petite pause, vous évoquiez la maison des adolescents. Alors, c'est le moment de parler des jeunes.
Oui, alors qui sont durement touchés par la santé mentale. Hein. Je pense que Rémi en parlera tout à l'heure. Voilà, moi je voulais parler de ce dispositif, donc la maison des adolescents, qui est un dispositif national de prévention et qui est porté par le centre hospitalier de Digne-les-Bains. Elle reçoit des adolescents, mais aussi des jeunes adultes, donc ça va de 11 à 25 ans. Pour les mineurs sans autorisation parentale, c'est gratuit, c'est confidentiel, anonyme, si le jeune veut être anonymisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, cette maison des adolescents reçoit aussi les parents qui sont concernés par un proche et qui peuvent être en difficulté par rapport à cette problématique de santé mentale. Et là, c'est pareil que le CMP, en fait. Hein, donc, c'est des entretiens, des groupes sur des thématiques variées. L'appareillement, les équipes sont composées de psychologues, d'infirmiers, infirmières, éducatrices, éducateurs spécialisés. Il y a une coordinatrice et une cadre de santé.
Vous n'êtes pas débordé par les demandes ?
Alors, moi, je ne gère pas la maison des adolescents.
C'est un vous,
mais oui, royal. Si. En fait, je pense que de toutes les structures amenées à gérer des personnes en souffrance psychique sont en grande difficulté par rapport au nombre de personnes qui se présentent. Voilà. L'avantage, en fait, c'est que l'AMDA, donc la maison des adolescents, rayonne sur le département. Il y a des lieux de consultation sur Manosque, Riez, Fort-Calquier, Digne, Sisteron, Barcelonnette. Voilà, donc nous, on essaye vraiment d'être en lien, parce qu'on, le CMP est en lien avec la maison des adolescents, parce qu'elle reçoit des personnes qui sont adultes, et donc nous, on peut prendre aussi le relais sur certaines problématiques.
Je vais donner quelques
chiffres. Oui, Guy voulait...
Pour les auditeurs, je pense que c'est intéressant.
Guy est mort pour l'UNAFEM, hein, je le rappelle.
Voilà. D'abord pour les femmes, on en parlait tout à l'heure. Les chiffres sont les suivants. Sur à Manosque, on compte 1882 personnes qui sont
en souffrance.
Qui prennent des médicaments psychotropes. Et sur ces 1800, il y a quand même 1222 femmes. Donc c'est un chiffre qui est
considérable,
hein, et significatif. Ensuite, pour la prise de médicaments, depuis 2021, ce sont des chiffres officiels, la consommation de psychotropes en France, entre 2014 et 2021, c'est plus 48% en 4 ans, plus 62% pour les antidépresseurs, c'est énorme, plus 78% pour les psychostimulants, et plus 155% pour les hypnotiques, les somnifères. Bon. Et selon Vie publique, qui est un organisme officiel, la hausse de la consommation de psychotropes chez les mineurs a été de plus 224% pour les hypnotiques et de plus 23% pour les antidépresseurs, donc pour les jeunes, pour les très jeunes. Ce sont des chiffres alarmants. Je voudrais te dire, j'en profite pour dire... deux ou trois informations sur... à l'UNAFAM, on voit dans les départements des Alpes de Haute-Provence, et notamment dans le sud du département, c'est une insuffisance du nombre de médecins psychiatres, et notamment aussi à l'hôpital, puisqu'il y a 13 postes qui sont offerts, il n'y en a que 8 qui sont pourvus. Alors ça ne tient pas, au ministère de la Santé, ça ne tient pas à l'hôpital, ça tient au fait que... il n'y a pas de candidats ou peu de candidats, hein, dans les territoires ruraux et notamment en psychiatrie.
C'est peut-être un département qui a été moins bien servi au niveau médical par les instances, non ? La psychiatrie ou les gens le choisissent moins ?
Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il n'y a pas d'offre de soins par les médecins et les spécialistes. Hein. Et d'autre part, on note aussi qu'il y a eu quand même une fermeture de 30 lits à l'hôpital de Digne, sur combien ? Sur 110, il n'en reste plus que 90, ce qui est énorme. Et je voudrais ajouter que dans le sud du département, c'est-à-dire Manosque et l'agglo des LVA, il y a peu de soignants, il y a peu de services. Et à l'hôpital, malheureusement, il n'y a pas de permanence de psychiatrie, il n'y a pas d'urgence. Quand vous avez un cas urgent... quand on intervient, nous, par exemple, il faut aller à Digne. Donc, quand quelqu'un a une crise et qu'il faut l'amener jusqu'à Digne, etc., ou à Aix, c'est compliqué, ça aggrave le problème. Voilà. Le signal est ça, qui est quand même une donnée importante de notre département.
Alors Guy, moi je voulais revenir justement sur le distinguo homme-femme. Pourquoi plus de troubles anxieux décelés chez les femmes? Parce que je pourrais rajouter qu'il y a les troubles liés à la maternité. Une charge mentale en lien avec les responsabilités domestiques à peu près à 70% de tâches gérées par les femmes. Il y a enfin le harcèlement sexuel, les violences domestiques et les inégalités au travail et salariales pour les femmes. Mais aussi peut-être que la santé mentale reste encore tabou et qu'il est plus facile pour les femmes de demander de l'aide. Et enfin, j'ai envie de parler des normes culturelles qui valorisent force et maîtrise émotionnelle chez les hommes, qui les freinent dans leur recherche d'aide, tout simplement.
Non, mais c'est vrai.
Rémi, vous voulez dire quelque chose?
Oui, ben je vais. Effectivement, j'ai plusieurs choses à dire. Je voulais pas démarrer comme ça, mais je suis ce que vient de dire Guy à l'instant. Là, en termes d'accès aux soins, le département 04 est particulièrement sinistré. Il y a eu les assises départementales de la santé fin novembre. La santé, il y a eu les assises de la santé mentale il y a à peu près un an et demi. Oui. Et puis en fin d'année dernière, c'était début décembre, il y a eu les assises départementales sur l'accès aux soins. Qui regroupait l'ensemble des partenaires. Ça avait été un souci des membres du comité territorial de santé pour dire il faut parler vrai, il faut dire là où on en est, ce qu'on a fait. Et donc, on sait que la démographie médicale dans le département 04 est particulièrement sinistrée, que ce soit en termes de médecins généralistes, que ce soit en termes de spécialité. Et la psychiatrie est particulièrement touchée, puisque je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, mais vous l'avez bien dit, quoi. Donc, et c'est effectivement, après, en termes d'accès, ben c'est extrêmement compliqué à soigner. Ça, c'est le premier élément que je voulais dire. Ensuite, concernant les jeunes, là, ce qu'il est, je ne vais pas abreuver de chiffres, mais ce que je propose, c'est peut-être qu'un jour on revienne pour expliquer ce que dit cette analyse de la santé pour les jeunes sur la santé mentale. Mais qu'est-ce qu'il faut faire après? Alors, effectivement, il faut discerner ce qui relève de la psychiatrie avec les difficultés d'accès et de traitement, et puis relever après ce qui touche, ce qui aborde la santé mentale et tout ce qui est environnement. Et si on veut y travailler là-dessus pour limiter, mais il faut travailler sur les causes. Il ne faut pas casser le thermomètre, mais il faut travailler sur les causes. Et quand on parle aujourd'hui d'environnement, mais on parle aussi changement climatique. Quand on parle environnement, on parle, pesticides, on parle PFAS. Tout ça, ça intervient directement.
C'est ce qu'on appelle l'éco-anxiété.
Oui, c'est l'éco-anxiété, mais qui s'appuie sur des éléments scientifiques réels et qui ont des conséquences dramatiques sur la santé. Et donc, pour les jeunes aujourd'hui, ou pour une jeune femme, là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a l'université, c'est l'hôpital de Strasbourg, je crois, ou les scientifiques de Strasbourg qui viennent de faire une étude sur les cancers du sein pour les femmes. Donc, ils constatent, cet institut constate que les cancers du sein chez les jeunes femmes sont de plus en plus jeunes. Et quand ils ont recherché les causes, c'est pas dans l'ADN, mais c'est lié à l'environnement. Direct. C'est les facteurs de stress, mais aussi les PFAS, les facteurs endocriniens, l'alimentation, et tout le reste. Oui, tous les produits cosmétiques et tout ça. Donc, si on veut intervenir sur les méthodes de santé, il faut intervenir sur les causes. Ça, c'est pour ce qui est de l'environnement. Les jeunes, ils disent quoi? Les jeunes, ils disent, nous, on veut, on veut un environnement qui soit apaisé. Alors, l'environnement international, on va pas revenir dessus, chacun le connaît, mais on nous dit tous les jours que quasiment la guerre est à la porte de nos frontières, sans compter ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, il y a, pour les jeunes, de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de travail. S'il n'y a pas de travail, on est dans la misère. Ça creuse les inégalités sociales. Quand on est dans les lieux, on va trouver du travail ou pas mieux. Et puis, la ruralité intervient dans ce domaine-là, même si sur le Basquin, Manosquin, on est peut-être un peu mieux traité, une situation un petit peu meilleure que dans le reste du département, mais ça rejoint ce qui se passe aussi dans les Bouches-du-Rhône, ou là, dans les quartiers, défavorisés, ou les quartiers sensibles, pour prendre le terme, effectivement, on se retrouve dans la misère, et c'est pas facile. Les transports, c'est un facteur anxiogène. Comment on fait pour aller travailler? Comment on fait pour accéder aux soins?
La carte de transport du 04.
Si on prend les bilans santé, Alors, c'est des discussions qu'on a souvent avec l'autorité de transport. Hein. Mais si pour venir se soigner d'un village à Manosque, à l'hôpital, ben, on n'a pas de transport, comment fait-on? Ben, on n'y va pas. On est dans le renoncement aux soins. Et c'est pareil pour les jeunes. C'est pareil pour les activités culturelles ou pour les activités sportives. On sait que ces facteurs, comment dire, de stabilité, on va bien se sentir dans sa peau, bien se sentir dans sa tête. Ben, effectivement, la santé mentale, elle ne peut être que meilleure. Mais si on n'a pas accès, si on n'y a pas accès, même si c'est préconisé par ordonnance, des fois l'activité physique, mais dans tous les cas, si on n'a pas accès, ben on va se retrouver dans le renoncement aux soins et puis avec des situations qui risquent de s'aggraver. Donc c'est ça, agir sur toutes les causes. Et ça, c'est facteur de stabilité. Et la mutualité française, quand elle dit qu'il faut aller sur un virage préventif majeur, mais il faut que ça soit de l'ordre, de décision, là aussi, de l'État, même si je pense que les collectivités territoriales, les communes, depuis le Covid, se sont investies de façon considérable et ont eu tendance à suppléer des carences de l'État en la matière. Bon, ben, soit on donne des moyens aux communes supplémentaires et aux collectivités pour faire, mais pour ça, il faut avoir un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui soit établi, qui prenne en compte cette dimension-là, et là, on n'en prend pas le chemin.
Christophe ?
Oui.
Ah, et Michael aussi.
Oui, du coup, moi, je voulais rebondir. Du coup, on voit que cette santé mentale, elle est plurifactorielle et elle est vraiment... si on reprend, en fait, la pyramide des besoins de Maslow et même par la suite d'autres qui ont pu la modifier, elle regroupe plusieurs besoins. Il n'y a pas que les besoins physiologiques, il y a aussi les besoins sécuritaires, les besoins d'appartenance, besoins d'estime et besoins d'accomplissement de soi. Donc, c'est vrai que tous les facteurs, en fait, sont potentiellement des facteurs négatifs ou positifs sur la santé mentale. La deuxième chose, pour revenir en fait sur l'état de la psychiatrie, en fait, la psychiatrie du 04 n'échappe pas en fait à la problématique nationale. Hein. C'est vrai que tout ce qui est santé, en fait, est dégradé, mais c'est dégradé au niveau national. Et nous, malheureusement, nous subissons aussi cette dégradation. Par contre, il y a quelque chose qui est important, effectivement, sur la fermeture des lits. Alors moi, je voudrais rajouter que il y a effectivement des fermetures de lits parce qu'il y a un changement aussi de paradigme dans la façon de prendre en soin les personnes souffrant de troubles psychiques. C'est-à-dire qu'on n'est plus... Dans une idéologie d'enfermement, en fait, dans des lieux de soins. Et on va plus se tourner vers des accompagnements à domicile. Alors, il y a effectivement des équipes mobiles qui sont créées. Donc, il y a une volonté quand même de changer notre façon de fonctionner. Et surtout, ce n'est pas d'hospitaliser les personnes et de les garder ad vitam aeternam. Donc, il y a un gros travail qui est fait en ambulatoire, je peux en parler parce qu'effectivement, je gère 5 structures, alors une hospitalière, mais 4 en extra-hospitalier, donc sur des communes. Et effectivement, la volonté, c'est de garder la personne qui souffre de troubles psychiques au domicile. Alors, c'est pas tout le temps facile, mais il y a cette volonté aussi de faire sortir les patients de l'hôpital. Et ça, je pense que c'est très important dans la déstigmatisation.
Comme le dit Christophe, c'est vrai qu'il y a un changement de stratégie, c'est-à-dire que le gouvernement a décidé de favoriser le hors les murs par rapport à dans les murs.
On comprend pourquoi.
Hors de l'hôpital, et bon, ça veut dire que les gens en crise grave sont gardés à l'hôpital un certain temps, mais les gens qui ne sont pas en crise, on leur demande de partir. Alors, il y a effectivement sur le plan médical des équipes mobiles et toutes une sorte d'actions qui permettent d'aider ces gens-là. Mais moi, je pense à tout le reste, c'est-à-dire les gens qui sortent de l'hôpital et qui ont une famille qui n'ont pas, mais les familles ne peuvent pas non plus résister longtemps. Il faut qu'elles se logent, il faut qu'elles travaillent, il faut qu'elles aient des loisirs. Et dans ce sens-là, je ne vois pas beaucoup d'actions qui ont été aujourd'hui développées. Le CCAS fait un certain nombre de choses, mais il y a toute cette problématique, notamment du logement. Il n'y a pas de structure.
Je vais te couper, Guillaume, mais sans parler du logement ou quoi. Donc, il y a la loi de février 2005. pas si vous la connaissez, je ne vais pas la citer entièrement.
Personnellement, non.
Je vais juste citer une phrase. Donc, c'est l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, tant comme moyen de prévention du handicap que comme élément de compensation du handicap. Et c'est par rapport à cette loi que les GEM ont été créés.
D'accord.
Et d'où l'intérêt, justement, des GEM. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une passerelle entre l'hospitalisation, le CMP, les centres médico-sociaux, tout ça. Et nous, justement, aux GEM, nous, on n'est pas une structure médicale ni sociale. On est là pour accueillir des gens en souffrance par le biais d'activités sportives, par le biais d'activités culturelles.
Des rencontres, tout simplement.
De rencontres, de moments, des gens qui n'ont pas les moyens d'aller à la plage. L'été, souvent, on fait des sorties à la mer.
Mmh. Et vous-même, Michael, qu'est-ce qui vous a...
C'est 50 personnes.
Oui, mais justement, déjà, il y a trois GEM sur... Oui, mais c'est déjà...
Qu'est-ce qui vous a motivé,
déjà bien.
Qu'est-ce qui vous a motivé, Michael, pour rejoindre cette association?
2005, c'est quand même il y a 20 ans.
Oui.
Donc, ce n'est pas récent. Donc, les GEM, je ne sais pas combien il y en a en France, mais pas suffisamment.
Il y en a beaucoup.
J'en conçois.
Vous-même, Michael, personnellement, qu'est-ce qui vous a convaincu de participer à d'être président dans
C'est pas que j'ai été convaincu, c'est que j'ai été touché par le trouble psychique.
D'accord.
Donc moi, j'étais chef d'équipe en BTP, donc une charge de travail assez conséquente, beaucoup de déplacements, éloignement de la famille. Bon, il y a pas mal de choses qu'on fait que j'ai eu un syndrome d'épuisement. Qu'on appelle le burn-out, pour ceux qui ne connaissent pas ce syndrome. Et donc, quand on a un syndrome d'épuisement, il y a d'autres pathologies qui émergent. Quoi. Donc, le stress, mais ça, c'est au travail, c'est commun. Quoi, tout.
Et donc, le fait de tourner vers les autres, vous avez envie de partager votre expérience.
En premier lieu, j'ai été conduit au CMP, où j'ai été soigné, j'ai un traitement médical, mais après, on m'a aiguillé vers le GEM. Le CMP m'a aiguillé vers le GEM. Et j'ai trouvé ça génial. Quoi. C'est une association... Nous, on appelle ça...
Tout le monde reconnaît la qualité du travail.
C'est une grande famille. Pour nous, c'est une grande famille.
C'est sûr. Ouais, tout le monde.
Quand on va là-bas, on oublie un peu tous les problèmes, sans les occulter, mais... Quand on vient au GEM, on se sent bien, on est entouré. On peut parler ouvertement.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on a tous des troubles.
Virginie, vous attendiez?
Oui, justement, Michael, sur cette loi de 2005, effectivement, là, aujourd'hui, on est tous dans la même résonance. C'est l'aller vers, que ce soit des institutions publiques, les institutions médicales, les partenaires associatifs, la mutualité française. On va vers les gens, vers les citoyens. On tend une main à eux de la saisir. En fait, on est vraiment là-dedans et on essaye de faire évoluer cette loi qui date, comme tu l'as dit, il y a 20 ans déjà. Mais on a marqué un pas de plus, notamment avec le CLSM, puisqu'on fédère toutes nos énergies pour les gens en souffrance. Et voilà, c'est ce que je voulais dire.
Oui,
c'est l'aller vers.
Ça peut soulager le CMP aussi.
Absolument.
On soulage le CMP, j'espère.
Sûrement. Ouais.
Je pense.
Rémi.
J'y vais. Oui, moi, je reviens sur cette coordination, sur ce partage essentiel entre les uns et les autres, justement pour pouvoir répondre aux besoins, mais en attirant l'attention sur quelque chose. C'est que je reviens toujours, c'est la mutualité française, on y est très, très sensible parce qu'on intervient chaque année dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale sur les moyens qui vont être donnés aux structures médicales ou médico-associatives. Et donc, l'hôpital, on sait que les moyens sont en dessous de tout. Ce qui est prévu pour cette année, c'est dérisoire, c'est lamentable, pour ne pas le dire. Mais ensuite, l'État essaye de renvoyer vers le monde associatif, que ce soit DGEM, que ce soit l'UNAFAM, que ce soit
l'AC,
ou vers les collectivités, en leur disant, aidez-nous. Alors, OK, je crois que chacun y travaille déjà depuis très longtemps, puisque les organisations, elles ne sont pas nouvelles, elles sont anciennes. Le CLSM, il y a longtemps que les gens travaillent ensemble, mais là, c'est une structure de plus qui va favoriser justement cette coordination avec une implication des politiques. Mais s'il n'y a pas les moyens qui sont donnés pour que le médico-social puisse fonctionner correctement, samedi 11, là, il y avait une action justement de tout le monde associatif pour dire c'est bien de nous déléguer des missions de service public, mais dans le même temps, merci de nous donner les moyens. Mmh. Parce qu'autrement, il y a l'épuisement. Et comme disait Guy tout à l'heure, là, les bénévoles qui s'en occupent, à la fin, ils se disent, mais qu'est-ce que je viens faire ici ?
Les moyens seraient des moyens financiers, j'imagine.
Ah ben oui, il faut des moyens financiers, là, c'est sûr. Donc ça, c'était un point. Parce que tout ça participe, après, toutes les actions collectives que l'on fait, tous les engagements de chacun, ça participe à créer ce lien social, voilà, qui va permettre comment de pouvoir... pour les gens qui sont en difficulté, de pouvoir retrouver ce lien et être, comment dire, de se remettre d'aplomb. Je voulais revenir pour vraiment dire que le 16 octobre, c'est quelque chose d'important à Osco Manosco.
Jeudi, donc.
Hein, voilà, c'est jeudi. Là, on travaille justement sur la prévention. Je crois que tout un chacun, on va y être présent, chacun avec notre spécificité. Donc, venez-y, venez. Voilà, venez voir, venez écouter, venez discuter. Et je termine juste sur... je crois que le centre social de Manosque l'avait. Il y a eu une petite enquête santé mentale qui a été faite en début d'année auprès des jeunes manosquins.
Oui.
Je donne juste quelques éléments. Oui, là, je ne donne pas tout, mais il y avait plusieurs questions qui étaient posées aux jeunes. Et c'était un petit échantillon, hein, 250 jeunes ou à peu près. Là, et c'était, pour vous, la santé mentale, c'est quoi ? Alors, la santé mentale, pour la plupart, c'est être bien dans sa tête et dans son corps, pour les jeunes. Bonne réponse, hein. Qui est concerné par la santé mentale ? Réponse, tout le monde. Si une personne a des problèmes de santé mentale, cela est le signe de... Alors, il y avait plusieurs... la personne est faible, la personne doit se donner un coup de pied aux fesses, ou la santé mentale est fluctuante. La santé mentale est fluctuante et nous sommes tous concernés. Je dirais que c'est rassurant d'entendre des réponses comme ça de la part des jeunes. À qui conseilleriez-vous de parler de ces problèmes de santé mentale ? Alors, il y a un adulte de confiance, un organisme de santé, une association, l'une des femmes était citée, ou un médecin de famille. Donc, la plupart sont sans réponse. C'est ça, c'est sur la connaissance de l'environnement. Mais non, on est dans tous les cas. Et autrement, tout le monde répond, 30% répondent, eh bien, c'est vers le médecin. Alors, j'en ai encore une petite, là. Je vais vous le... Même s'il y en a beaucoup, mais... pour se rétablir d'un problème de santé mentale, quelles sont, selon vous, la personne concernée devra... Alors, il y a plusieurs réponses. Alors, entre les médicaments, les psychotropes, attendre que les meilleurs jours arrivent, s'appuyer sur ses proches. Alors là, il y a prendre des médicaments et puis une thérapie avec un psychologue. Ça correspond à ce que disait Christophe tout à l'heure. Là, le passage entre psychiatrie et... santé mentale, voilà, c'est pas clair pour tout le monde, alors qu'il faudrait que ça le soit. Donc, l'expliquer, c'est ça. Et puis ensuite, il y avait encore tout un tas d'autres réponses, mais c'est là où on sent qu'il y a une faiblesse dans la compréhension, et dans la maîtrise de l'environnement à qui s'adresser. Et donc, organiser des journées comme ça, ça va bien aller, ça va dans le sens de répondre à ce que les jeunes ont besoin.
Ah, et Michael qui voulait la parole. On va faire très rapidement.
Oui, rapidement.
Parce qu'il reste 2 minutes.
En plus du 16 octobre, donc il y a le 18, donc la déambulation au marché, plus les portes ouvertes du GEM. J'ai oublié de préciser l'adresse, c'est 185 boulevard des Cougourdelles. C'est 30 mètres au-dessus des impôts sur la gauche. Donc le GEM, il y a quelques adhérents qui ont écrit un témoignage. Et on va participer aux bibliothèques vivantes à la médiathèque de Digne.
Très bien.
Donc, ça sera aussi samedi, le 18, de 10h à midi à la médiathèque de Digne. Et j'en ferai partie.
Le 5 novembre, il y a les assises départementales de la santé mentale. Vous savez. Donc, il faut vous mobiliser, là. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'à mon sens, on ne va pas assez vers les populations des quartiers dits prioritaires de la politique de la ville. C'est-à-dire qu'il y a des populations là, qui sont dans des appartements, des logements, des passoires thermiques. Oui. Il y a des problèmes de chômage, ils sont à 40%. Il y a des problèmes de précarité, de pauvreté. Et la maladie mentale ou la santé mentale sont particulièrement prisonniers dans ces quartiers-là. Il y a un contrat de ville à Manosque. Il faudrait, à mon avis, introduire dans le contrat de ville des actions sur la prévention et la connaissance et l'accès aux soins en maladie mentale. 5 000 habitants à Manosque sur 22 000. Hein, c'est beaucoup.
Ouais. Une minute.
Alors, nous arrivons à la fin, au terme de cette émission, mais je vous remercie tous. Et
merci.
Et je pense que tout le monde merci. Vous remercie de vos actions, parce que vraiment, c'est essentiel. Virginie, un dernier mot ?
Non, bah on vous remercie. Merci Fréquence Mistral, merci Olivier d'avoir permis cette interview qui, j'espère, pourra être profitable à tous nos concitoyens.
Merci Rémi, merci Virginie, merci Christophe, merci Michael et merci Guy d'être venu autour de notre table. Vous retrouverez cette émission en ligne sur nos réseaux dès demain mardi. Et probablement, ce sera peut-être le thème d'une autre émission de revenir un peu discuter tout ça, parce que c'est assez bref, une heure finalement.
Avec plaisir.
Merci à vous.